je crois que j'ai cette formation de géographe dont je ne me défais pas. Et puis, j'ai toujours eu ce sentiment qui est primitif, comme ça, instinctif, du lien de l'homme avec le milieu.
Vous arrivez à destination.
Version perverse, monstrueuse du discours géographique.
Chicago, ville américaine de 3 millions d'habitants située aux portes de l'Ouest et au bord du lac Michigan.
L'esprit géographique, Arthur Guérin-Turc.
Pas de peau, Georges. Dans le sud-est du Berry, coule la Vallée Noire. Une
petite république champêtre où l'on est forcément vertueux.
Écrit George Sand. Dans son roman Valentine, l'autrice est moins soucieuse de décrire la Vallée Noire que de la créer de toutes pièces, avec une géographie accomplie dans toutes ses dimensions physiques et humaines. La Vallée Noire des romans de George Sand est abordée avec le souci d'y ancrer l'idéal campagnard cher à l'écrivaine. Jusqu'à ce que George Sand apparaisse sur la scène littéraire, la partie sud-est du Berry était sans histoire. C'était une de ces campagnes ignorées, des révolutions et des guerres, où le voyageur de passage ne courait aucun risque d'entendre la traditionnelle chronique féodale ou la sempiternelle légende miraculeuse que des vieillards avachis racontent à quelques variantes près dans tous les patelins de France. Toute l'originalité de l'œuvre de George Sand repose là-dedans. La chronique historique et la légende merveilleuse pour le sud-est du Berry, c'est George Sand qui les a inventées. Sand découvre une vallée, s'émerveille de sa population, l'introduit au monde. Mais le geste de l'exploratrice est ambivalent. Elle célèbre une vallée en même temps qu'elle la menace, en cassant sa clôture ancestrale. Sand contemple ce qu'elle a fait avec fierté et regret.
Si j'avais compté sur le retentissement de mes œuvres, je crois que j'eusse voilé avec jalousie ce paysage comme un sanctuaire.
Écrit-elle dans la préface de Valentine en 1852. Conservatoire de l'enfance, réceptacle d'une bibliothèque élective, la Vallée Noire est la scène marquante pour Sand d'une révélation de soi. Lorsque l'écrivaine découvre à quel point elle est dépendante de sa vallée et a su en devenir le personnage central, elle se complaira à l'écrire à ses amis et à habiter pour eux pleinement le rôle de l'écrivaine campagnarde. Ainsi, elle écrit à Mazzini en 1847.
Venez me voir chez moi dans ma vallée noire, si bête et si bonne. J'y suis plus moi-même qu'à Paris, où je suis toujours malade au moral et au physique.
On a bien lu sous sa plume que la vallée noire, c'est sa peau d'âne. Elle le dit d'ailleurs dans la préface de 1852 à Valentine.
Il me semblait que la vallée noire, c'était moi-même, c'était le cadre, le vêtement de ma propre existence, et il y avait si loin de là une toilette brillante et faite pour attirer les regards.
Mais pourquoi ce rapport aussi charnel entre Sand et la vallée noire? Eh bien parce que c'est Sand elle-même qui a baptisé la vallée noire en 1832 et a imposé ce nom ignoré des géographes.
Une partie de terrain comprise entre deux petites rivières est particulièrement remarquable par les teintes vigoureuses et sombres de sa végétation qui lui ont fait donner le nom de Vallée Noire.
Qui donc peut se vanter mieux que George Sand d'avoir créé une région? La Vallée Noire, c'est elle qui l'a nommée, définie, délimitée. Avant elle, aucune région naturelle ne portait ce nom. Ni Cassini ni Robert ne l'avaient porté sur leur carte. Il est même arrivé que des berrichons perplexes lui aient demandé où était cette mystérieuse vallée inconnue de leurs parents. Des géographes ont discuté le bien fondé d'une dénomination arbitraire qui se fonde sur le seul aspect du paysage pour attribuer une unité factice à une région disparate. Chers amis géographes, vous avez raison. Scientifiquement parlant, j'entends. Convenez cependant que l'unité de la région n'est pas absolument illusoire, puisqu'elle englobe les vallées de l'Indre et de ses affluents, l'Igneraie, la Couarde, la Vauvre, qui coulent tous dans le même sens, et celles de la Bouzanne et du Gourdon, identiquement orientées. Si George Sand eût employé le terme de bassin versant au lieu de vallée, peut-être, chers amis géographes, eussiez-vous soulevé moins d'objections. Vallée noire, elle est, vallée noire, elle restera dans le cœur des littéraires. Mais pour les cartographes, aucun d'entre eux n'osera porter ce nom sur leur tracé, sans doute par honte de lire la petite fadette en cachette. Sur une stèle érigée à Corlay, en 1926, plusieurs fois démolie par des tracteurs trop larges pour des allées trop étroites, le passant des chemins vicinaux peut y lire l'inscription
« Ici commence la vallée noire célébrée par les romans de George Sand. »
Aux natures rêveuses conviennent les grands espaces, l'immense horizon, les vues dégagées, les promontoires d'où le regard s'élance sans être arrêté par le détail. Toute sa vie, George Sand a particulièrement aimé le site de Corlay, que la petite Marie de la Mare au Diable ne peut regarder sans pleurer.
Ma vallée noire, ma vallée de... La chandelle et ton cornet, j'ai pris ma cape et mon capet, toute follette à s'envoler. Fadé, fadé, petit fadé, prends ta chandelle.
George Sand ne s'est pas limité à la vallée noire. Elle a fait l'odyssée du Limousin. Malgré la difficulté des communications au temps de sa jeunesse, elle a beaucoup exploré la campagne berrichonne, sans voiture ni intercité. Elle a arpenté le Berry comme personne ne l'a fait à l'époque, et jusqu'en sa verte vieillesse, toujours curieuse de connaître et de revoir les sites qu'elle aimait. Elle ne craignait pas les déplacements, même dans la saison où les autres se calfeutrent. En janvier 1858, elle va faire un tour à Gargilès.
Nous sommes partis par un brouillard noir et un verglas superbe, Monceau jurant que le soleil allait se montrer. Mais plus nous allions, plus le brouillard s'épaississait, si bien que nous sommes arrivés à la descente du Pin, voyant tout juste à nous conduire. Mais, tout d'un coup, la Creuse, glacée et non glacée par endroits, cascadant et cabriolant à travers ses barrages de glace et coulant au milieu, tandis que ses bords blancs étaient soudés aux rives, s'est montré devant nous tout isolé du paysage, si bien que, si nous n'avions pas su ce que c'était, nous aurions cru voir un mur tout droit de je ne sais quel marbre gris et blanc avec un mouvement fantastique. Et puis, un peu plus loin, sur le brouillard gris-noir de la rivière, on voyait des bouffées de brouillard blanc, comme si le ciel, un ciel d'orage, était descendu sous l'horizon. C'était superbe.
On trouverait dans son œuvre des centaines de déclarations d'amour, semblables pour ce pays qui ne lui a pas donné le jour, mais qui l'a conquise et formée dès l'âge de 4 ans. Citons au hasard.
J'ai toujours aimé ce pays, cette nature et ce silence. Il n'est guère des plus beaux sites en France. Il me semblait que la vallée noire, c'était moi-même.
Inséparables sont George Sand et le Berry. On ne peut étudier l'un sans l'autre tellement ils ont réagi l'un sur l'autre, écrit Georges Lubin. Modelée, imprégnée par les paysages de cet heureux coin de terre, l'imagination de George Sand est nourrie et fécondée par l'incitation constante de cette campagne chérie, soumise à d'apaisantes influences qui lui venaient du sol et du climat. L'écrivaine a donné à ce territoire une signification particulière, la chargée d'émotions transmissibles à ceux qui lisent ses œuvres. George Sand a laissé après elle un Berry nouveau, un Berry à elle, qui ne serait pas le même si elle n'y avait pas vécu, aimé, écrit. Mais aujourd'hui, que reste-t-il à voir de ce Berry romantique pour les touristes toujours plus nombreux, ces pèlerins littéraires qui viennent contempler le Berry, ces agrégés de lettres imprégnés de l'œuvre de George Sand? Que reste-t-il de ce vestige de la littérature romantique qui a bercé les écoliers de la Troisième République ? Que reste-t-il aujourd'hui de George Sand en dehors de la Bibliothèque Rose qui prend la poussière dans le grenier de chez Mamie ? Hormis son domaine de Nohant, liké tout de même par 7500 personnes sur Facebook, il ne reste pas grand-chose de l'écrivaine dans le Berry. La mare au diable figure sur les cartes au 1/25 millième de l'IGN, mais vous serez déçus, chers auditeurs, à la vue de cette flaque d'eau au bord d'un chemin d'exploitation forestière. Quelles sont les traces de la fameuse vallée noire dans le Berry ? Oh, trois fois rien. Une carte postale jaunie sur laquelle apparaît une constellation de châteaux en ruine, avec au milieu le portrait d'une vieille femme en noir et blanc qui ressemble plus à la mère Poulard du Mont Saint-Michel qu'à l'écrivaine romantique aux multiples amants. Si vous cherchez la vallée noire aujourd'hui, vous tomberez rapidement sur le nom d'un circuit cycliste organisé par l'Office du tourisme du Berry. Boucle de 2h30, 150 mètres de dénivelé, 16 km de distance, itinéraire facile, conseillé pour les familles. Chers auditeurs, il faut se rendre à l'évidence. La mémoire de George Sand n'aura pas traversé les âges. Aujourd'hui, le seul héritage de la vallée noire dans le Berry est une poterie artisanale sur la route départementale D69 à Verneuil-sur-Igneraie qui affiche fièrement sur sa devanture
Poterie de la Vallée Noire, four en activité depuis 1832.
Magasin de poterie, 3 avis sur Google pour une moyenne de 3,3 sur 5. Ou comment mieux assassiner le haut lieu de la résistance littéraire où l'on fait vibrer éternellement la flamme romantique. Dernier vestige folklorique de George Sand, diront les mauvaises langues. Vous pourrez y acheter des pots à la mémoire de l'écrivaine, des pots de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Nous voilà rassurés, pourrait-on se dire, que nenni. Que le seul héritage de l'écrivaine soit un vulgaire pot demeure un comble pour ceux qui connaissent la fin de vie scabreuse de George Sand. Toute l'originalité de l'écrivaine se trouve dans ce caractère qu'aucun autre écrivain ne lui envie. Elle a toujours manqué de peau, au propre comme au figuré. Pour y voir plus clair, revenons aux faits. Le 30 mai 1876, l'écrivaine commence à souffrir de douleurs abdominales, selon Wikipédia bien renseignée. Dans les jours qui suivent, les douleurs s'accentuent. Malgré les soins prodigués par le médecin, la constipation devient difficilement supportable. Cela fait un bon moment que le transit de George Sand a cessé. Les selles sont absentes depuis plus de 72 heures. Le diagnostic est sans appel. L'écrivaine est atteinte d'occlusion intestinale. Le 8 juin, vers 6 heures du matin, elle cherche du regard une lumière et un pot de chambre qui ne viendront pas. L'écrivaine a encore la force de prononcer quelques mots et perd connaissance. Son agonie dure près de 4 heures. Elle s'éteint à 10 heures à l'âge de 72 ans. Pas de peau, Georges.